mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 30 avril. On va évoquer un petit peu aujourd'hui l'actualité autour du conflit israélo-palestinien avec peut-être enfin des changements justement dans cette actualité et peut-être un cessez-le-feu et puis aussi les rebondissements que ça peut avoir sur la politique chez nous française. On va parler aussi un petit peu évidemment de la journée du 1er mai demain, la journée internationale du droit des travailleurs et des travailleuses. Et avant cela, quelques nouvelles d'une peut-être possible usine d'embouteillement d'eau du côté de Pézenas. On va parler d'eau parce qu'il pleut, il pleut, il pleut. Et oui, il pleut, mais c'est pas pour autant qu'on oublie la sécheresse un petit peu récurrente et systématique qu'on a dans le sud de la France. C'est pour cette raison, en tout cas, qu'environ 80 personnes ont manifesté, c'était ce samedi 27 avril, dans les rues de Pézenas, pour dénoncer un projet d'usine d'embouteillage d'eau dans la commune de Montagnac, à côté de Pézenas. Ce sujet, ils l'ont qualifié de « écocide ». La privatisation de l'eau est d'autant plus attaquée par ses opposants que les périodes de sécheresse se multiplient. C'est dans les colonnes du journal Le Point avec un G que l'on peut lire le compte-rendu de cette manifestation. Environ 80 opposants et opposantes, donc ce samedi 27 avril, se sont retrouvés en fin de matinée à Pézenas pour une manifestation tout en musique, hein, au son d'une batucada qui était présente pour animer cela. Ce cortège s'était lancé depuis la place des États du Languedoc et a déambulé pendant 1h30 dans les rues de cette petite ville. Une mobilisation donc portée par plusieurs groupes, dont le collectif Veille au Grain, avec la participation de l'association Le Frigo Bleu, la coordination O34 qui s'intéresse à toutes les problématiques liées à la ressource hydrique dans l'Hérault, et l'UTTA, un groupe anticapitaliste de l'ouest du département qui avait revêtu leur plus beau gilet jaune pour l'occasion. Alors ce projet d'embouteillage d'eau donc sur la commune de Montagnac, c'est un projet de pompage en profondeur de l'eau de la Castillonne, c'est le nom du cours d'eau qui passe là-bas, avec un forage qui a été financé par des fonds publics en 1986 et on est à 1500 mètres de profondeur sous la terre. Le conseil municipal de Montagnac a voté en 2022, le 29 septembre, la vente justement de ce forage pour la somme de 30 000 euros à la Compagnie Générale des Eaux de Source, la CGES, qui est une filiale de la société française Source Alma. Source Alma, c'est la société qui commercialise par exemple Cristaline, Saint-Yor, Vichy Célestin, Courmayeur. Et l'idée, c'était de construire donc une fameuse usine d'embouteillage, donc des bouteilles en plastique, pour recevoir l'eau de ce forage et peut-être développer une nouvelle marque. D'après le collectif donc Veille au Grain, l'eau du forage, qui est potable après traitement, pourrait répondre aux besoins de 20 000 habitants et habitantes sur place. Ce collectif dénonce donc une implantation catastrophique en termes de destruction d'emplois locaux. Il parle de la viticulture et du tourisme, puisqu'une usine prend forcément la place d'autres infrastructures et que ça, souvent, améliore pas fortement le paysage. Ils mettent en avant aussi l'impact environnemental avec justement l'aspect artificialisation des sols, la pollution du bassin versant de l'étang de Thau, on est pas loin de l'étang de Thau. Ils évoquent aussi le trafic routier qui sera induit par cette usine, la rotation de 160 camions par jour et évidemment la production des plastiques ne sont pas évoqués en plus dans cette liste. Les récents scandales qui pèsent sur beaucoup, beaucoup d'usines d'embouteillement d'eau, avec les problématiques liées aux eaux minérales. En période de raréfaction de l'eau, en tout cas, souligne ce collectif, la commune souhaite privatiser cette ressource à travers un projet de prédation écocide. Ce sont donc les mots de leur communiqué. Du côté de la mairie de Montagnac, eh bien, on met en avant les recettes qui seront issues de la taxe foncière, principalement opérée sur cette entreprise. Et ils mettent en avant aussi la création de 25 à 70 emplois potentiels si le projet venait à jour. Alors, le forage existe déjà, donc je vous l'ai dit. Il faudrait déjà, de toute façon, le remettre en route. Et le coût de réfection de ce forage serait de 500 000 euros, si ça venait à se faire, qui serait à la charge, justement, de l'entrepreneur Source Alma. Mais dans le cas contraire, eh bien, l'ouvrage, donc le forage, sera obstrué, hein, bouché. Donc. Mais cela se fera aux frais de la municipalité. Et le coût est de 300 000 euros. Un contentieux juridique a donc été lancé par le collectif Veille au Grain contre la commune de Montagnac. Et pour l'instant, eh bien, on n'en sait pas plus, une affaire à suivre, mais c'est sûr que l'actualité et tous les scandales qui entourent en ce moment le monde de l'embouteillement, justement des eaux en bouteille, ne va pas favoriser, je pense, l'implantation de ce projet aussi facilement. On va essayer de parcourir un petit peu l'actualité du conflit israélo-palestinien. Je le fais pas souvent parce qu'il y en a déjà beaucoup, beaucoup dans les médias, mais là, quand même, on semble être un petit peu à un tournant. Après des semaines d'impasse, les médias, en tout cas, entrevoient enfin une raison d'espérer une percée dans les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre. Cela alors qu'Israël a donc considérablement assoupli sa position. Ça, c'est une analyse que j'ai trouvée dans les colonnes du Courrier international. Les faits, c'est qu'une délégation du Hamas a quitté la ville du Caire hier, après des discussions donc avec des médiateurs égyptiens et qataris, sur une proposition de cesser le feu. Des allers-retours hein, de propositions et de contre-propositions entre le Hamas et Israël. Ils reviendront avec une réponse écrite. C'est aujourd'hui qu'on attend cette réponse. Le Hamas palestinien prépare donc sa réponse aujourd'hui à une offre de trêve de plusieurs semaines qui a été faite dans la bande de Gaza. Cette offre de trêve est associée à la libération d'otages israéliens en termes de discussion qui laisse donc peut-être enfin entrevoir une lueur d'espoir après quand même bientôt 7 mois de guerre. Selon un diplomate informé des pourparlers, là on en est vraiment dans les bruits de couloir, l'État hébreu donc aurait accepté une proposition qui prévoit une pause initiale de 6 semaines dans les combats, au cours de laquelle 33 otages seraient libérés, et elle serait suivie d'une deuxième phase qui consisterait à rétablir un calme durable dans l'enclave palestinienne de Gaza, selon la formulation qui a été proposée par les États-Unis. Israël aurait apparemment également fait des concessions sur d'autres demandes du Hamas, notamment en autorisant les habitants de Gaza à retourner dans le nord de la bande de Gaza assiégée. Bon, le nord de la bande de Gaza qui ressemble plus à un champ de ruines, mais certains veulent quand même retourner sur les lieux où ils habitaient ou peut-être aussi chercher des disparus. Le secrétaire d'État américain, en tout cas Anthony Blinken, dit de son côté espérer que le Hamas accepte ce qu'il a appelé comme une offre extraordinairement généreuse de la part d'Israël. On reviendra sur ces termes. Bah, par exemple, l'agence de presse Al Jazeera rappelle que le mouvement islamiste palestinien, donc le Hamas, a déclaré qu'il n'accepterait pas d'accord s'il n'incluait pas un cessez-le-feu permanent et un retrait complet des forces israéliennes de la bande de Gaza. Et Osama Hamdan, un haut responsable du Hamas, a lui réagi auprès de la chaîne Qatari en disant « Cesser les attaques contre les Palestiniens n'est pas un acte généreux. L'attaque elle-même est un crime, donc lorsque vous mettez fin à un crime, vous ne pouvez pas prétendre qu'il s'agit d'une action généreuse. » Le changement apparent, en tout cas dans la politique de la position d'Israël, intervient alors que les États-Unis et d'autres puissances occidentales font pression pour qu'un accord sur les otages soit conclu et que les combats cessent. C'est le résumé proposé par le Financial Times. Le gouvernement israélien, d'ailleurs, est aussi soumis à une pression croissante de son côté de la part des familles des otages, donc en Israël elle-même. Et ça, c'est la BBC qui le rappelle. En novembre, une première trêve avait permis au Hamas de libérer 105 otages en échange d'un cessez-le-feu d'une semaine et de la remise en liberté de quelques 240 prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. On dit prisonniers dans ce cas-là et non pas otages, puisque c'est un État légitime qui les retient. On poursuit un petit peu justement sur les ficelles peut-être de ce qui est en train de se passer. Et c'est dans justement un journal israélien, le Haaretz, qui est publié cet article, traduit et partagé par le Courrier international. Cette information, c'est celle qui s'intéresse à la Cour pénale internationale et son procureur général, donc Karim Khan. Eh bien, cette information serait que le procureur général donc de la CPI à La Haye serait sur le point d'émettre des mandats d'arrêt contre des hauts responsables israéliens soupçonnés de crimes de guerre à Gaza. Donc ça n'y est peut-être pas pour rien non plus, ça participe à cette pression un petit peu constante pour sortir en tout cas du conflit aveugle du moment. Le premier ministre israélien, tout d'abord Benjamin Netanyahou, mais aussi son ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, les États-Unis et d'autres États occidentaux s'efforcent eux-mêmes et par des manœuvres dilatoires de convaincre donc le président de la Cour pénale internationale d'empêcher l'émission de ces fameux mandats d'arrêt internationaux. Mais il n'est pas sûr que leurs efforts portent leurs fruits. En effet, en privé, de nombreux dirigeants israéliens admettent avoir peur que ces mandats d'arrêt soient émis cette semaine, dès cette semaine, contre Netanyahou, mais aussi le ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef d'état-major de Tzahal, l'armée israélienne, Herzi Halevi. D'autres responsables de rang inférieur seraient quant à eux épargnés, ce sont vraiment les têtes pensantes qui seraient visées par ces mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. Petite précision quand même, contrairement à la Cour internationale de justice, qui elle a entendu une plainte par exemple qui avait été déposée par l'Afrique du Sud, vous vous en rappelez sûrement, contre Israël, et qui traite les problèmes et les différends entre États, la Cour pénale internationale, elle, traite de procédures contre des personnes, et donc ce ne sont pas des États qui sont visés, mais par exemple des dirigeants. À l'instar des États-Unis, de l'Inde, de la Chine, de la Russie, de l'Iran et de la plupart des États arabes, Israël ne reconnaît la compétence de la Cour internationale de justice, mais pas celle de la Cour pénale internationale. Malgré tout, si ces mandats d'arrêt sont émis, dans la semaine peut-être, eh bien les États qui reconnaissent la compétence de cette Cour pénale internationale seront théoriquement censés arrêter, appréhender les accusés s'ils entrent sur leur territoire et les livrer au tribunal de La Haye. À ce jour, il y a quand même 124 pays qui reconnaissent l'autorité de cette Cour pénale internationale, parmi lesquels tous les pays de l'Union européenne et aussi la plupart des États africains et d'Amérique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et deux États arabes aussi, la Jordanie et la Tunisie. Aucun mandat d'arrêt international à ce jour n'a pour l'instant jamais été émis contre des responsables israéliens, mais aujourd'hui ça pourrait peut-être changer. En tout cas, selon l'ancien procureur général adjoint d'Israël Roy Schoendorf, ce risque est devenu plus crédible et il pourrait en outre déboucher sur des mesures concrètes à l'encontre de l'État d'Israël, comme un embargo sur les armes ou des sanctions économiques. La Cour pénale internationale n'a pas de policiers de force de l'ordre à envoyer pour éventuellement appréhender les individus chez eux, mais quand même symboliquement et en termes d'image publique, ça fait une sacrée différence, et vous l'aurez compris, ça mettra en tout cas pas mal de pays en porte-à-faux, à savoir est-ce qu'ils vont appliquer ou pas ces mandats d'arrêt. Donc voilà, a priori, pas mal de signaux internationaux qui expliquent peut-être aussi ce tournant dans le conflit. Et on termine avec ces analyses en revenant chez nous en France avec les remous là aussi du conflit israélo-palestinien qui prennent parfois un tour tragicomique sur la politique interne. On va laisser de côté les convocations pour apologie du terrorisme de certains représentants de la France insoumise et on va s'intéresser à ce qui se passe du côté des écoles puisqu'on parle pas mal d'éducation en ce moment avec cet article pioché dans les colonnes de Libération qui titre « Valérie Pécresse fait de la politique ». Ce lundi 29 avril après-midi, la présidente LR de la région Île-de-France a annoncé que la collectivité, donc la région Île-de-France, suspendait les financements à destination de l'école Sciences Po. Sciences Po qui est en ce moment le théâtre d'une mobilisation pro-Gaza sous tension avec des forces de l'ordre qui tentent de faire cesser ce blocus de l'école. Et elle annonce que les fonds donc pour Sciences Po seront suspendus tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies. Une minorité de radicalisés appelant à la haine antisémite et instrumentalisée par la France insoumise et ses alliés islamo-gauchistes ne peuvent pas dicter leurs lois à l'ensemble de la communauté éducative. Ça, ce sont les mots donc, de la présidente de droite sur X, le réseau social. Elle a manifestement repris pas mal de termes d'un article du Figaro qui estimait justement à la une de ce matin que Sciences Po s'incline face à la pression islamo-gauchiste. Ça a commencé vendredi avec une journée de blocage et de mobilisation émaillée de tensions qui s'est tenue donc à Sciences Po Paris avec effectivement plusieurs députés insoumis présents. En réponse à cette mobilisation, hein, qui fait écho à d'autres contestations qui agitent de nombreux et prestigieux campus américains, la direction de Sciences Po Paris s'était engagée à organiser un débat interne et à suspendre des procédures disciplinaires qui ont été lancées contre certains de ses étudiants manifestants. Cette suspension de procédures disciplinaires ne concerne cependant pas l'enquête qui a été ouverte en mars après une accusation d'antisémitisme. Ça, c'est la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, qui tenait à bien distinguer les deux affaires. Mais on est quand même bien loin d'un tapis rouge déroulé aux manifestants, vous l'aurez compris, puisque eux réclamaient avec ce blocus et cette mobilisation que leur école, Sciences Po, eh bien, condamne clairement les agissements d'Israël et mette fin à des collaborations de l'école avec les institutions ou des entités jugées complices de l'oppression systémique du peuple palestinien. Ça, c'était les revendications donc, des étudiants bloqueurs. Eh bien, pour Valérie Pécresse, tout cela est déjà trop, et donc on coupe le robinet des subventions. Bon, c'est pas non plus ça qui va empêcher l'école de tenir sur ses jambes, puisque le soutien de la région à Sciences Po, ça fait environ 1 million d'euros pour 2024 dans le cadre du contrat de plan État-Région. Faut savoir quand même que le budget annuel de Sciences Po, c'est 200 millions d'euros par an, donc c'est vraiment une goutte d'eau, mais quand même symboliquement, eh bien, c'est de la politique, comme on dit. D'autres crédits de fonctionnement destinés, par exemple, à la mobilité internationale, qui sont prévus pour le printemps et la rentrée, sont également suspendus. L'impact devrait être donc assez relatif, je vous le disais, hein, entre 1 ou 2 millions contre 200 millions d'euros par an pour Sciences Po. Peu après cette annonce, en tout cas, de la décision donc, de Valérie Pécresse, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer un certain poids de mesure dans les agissements de la région par la voix de sa présidente. Car en effet, au même moment que sont révélées différentes dérives dans le lycée privé Stanislas, par exemple dans un rapport de l'inspection générale de l'éducation, eh bien la présidente, la même présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, elle avait déclaré maintenir sa confiance et donc sa subvention à l'établissement Stanislas. Dans le rapport, il était quand même fait état de cours religieux obligatoires, de propos homophobes et d'autres contournements de la plateforme Parcoursup. C'est ce qui avait amené d'ailleurs la mairie de Paris à demander à l'État de déconventionner carrément l'établissement privé, sauf s'il se mettait en conformité. Voici ce qu'on peut lire par exemple sur le compte X du sénateur communiste Yann Brossa sur Paris. Un rapport détaille l'homophobie et la misogynie à Stanislas. Madame Pécresse maintient sa subvention. Sciences Po organise un débat. Madame Pécresse annule sa subvention. Scandaleux. Une autre réaction sur les réseaux sociaux. Pourtant, vous aviez apporté une subvention de 900 000 euros à Stanislas pour le soutenir dans son appel à la haine des femmes et des LGBTI. Ça, c'était sur le compte officiel du parti anticapitaliste, toujours sur X. Le NPA invite d'ailleurs la présidente de la région Île-de-France à commencer par régler les 850 000 euros de factures dans les lycées de la région. Les élèves ont besoin de profs, de locaux et de matériel.
Il y a de quoi se vendre la gueule, non ?
On change un petit peu, on part se mettre au vert avec ces deux brèves du journal Reporter qui s'intéresse à l'écologie et qui nous informe tout d'abord qu'il n'y aura pas de nouvelles infrastructures touristiques en Cerdagne. La Cerdagne, c'est une région située dans les Pyrénées-Orientales qui fait la frontière entre la France et l'Espagne. Cette décision, eh bien, elle vient de la Cour administrative d'appel de Toulouse. Elle est saluée par plusieurs associations écologistes locales qui mènent justement bataille depuis longtemps contre des projets de bétonisation en Cerdagne. L'arrêt, il date du 25 avril dernier et la Cour administrative de Toulouse a donné donc raison à ces associations locales en considérant que les projets prévus dans le PLU, le plan local d'urbanisme de la communauté des communes, eh bien, n'étaient pas soutenables compte tenu notamment de la saturation de la station d'épuration de la Comcom, station d'épuration à laquelle sont raccordées les 9 communes qui sont concernées dans ce PLU. C'est ainsi que c'est expliqué d'ailleurs dans la juridiction. L'état de saturation de la station d'épuration de Puy-Cerda suffit pour retenir que les 9 communes intéressées ne disposent pas à cette même date d'un réseau d'assainissement d'une capacité suffisante pour y raccorder les nouvelles zones à urbaniser. En plus de ce problème de station d'épuration visiblement pas assez grande, la Cour soulève l'insuffisance, voire l'absence, d'évaluation d'incidence environnementale de ces projets. En effet, autant d'hectares de terres agricoles et d'espaces naturels sont ainsi sauvés de l'artificialisation, se réjouit dans son communiqué David Berruet, qui fait partie des écologistes du pays catalan. Après des années de fuite en avant, dit-il, le moment est peut-être arrivé d'une bascule vers un arrêt de l'urbanisation non soutenable de la montagne. Selon les calculs de l'association Bien Vivre en Pyrénées catalanes, Cerdagne et Cap-Cyr voient l'équivalent d'un terrain de foot bétonné toutes les 2 semaines. Ce sont les résidences secondaires d'ailleurs responsables puisqu'elles représentent entre 60 et 90% des logements de ces communes de montagne. L'urgence n'est évidemment pas à de nouvelles constructions, mais à la réhabilitation du bâti qui existe déjà. Faute de le comprendre, c'est l'habitabilité de tout un territoire qui se retrouve en sursis, prévient toujours David Berruet des écologistes du pays catalan. Et on termine avec un petit tour de la planète qui chauffe, notamment au Vietnam, Bangladesh, Birmanie ou Cambodge. L'Asie du Sud-Est suffoque en ce moment sous des chaleurs extrêmes. C'est dans le Nouvel Obs que cet article a été publié et repris donc sous forme de bref dans Reporter. Cette région, donc l'Asie du Sud-Est, fait partie des plus vulnérables au changement climatique. Eh bien, elle se trouve accablée depuis plusieurs jours par des températures records. À Dhaka, la capitale du Bangladesh, les températures maximales moyennes qui ont été relevées au cours de cette semaine ont été à 4 à 5 degrés Celsius au-dessus des moyennes établies sur les 30 dernières années à la même période, et les moyennes n'étaient déjà pas complètement fraîches, puisque par exemple aux Philippines, on affichait ce samedi 27 avril 38,8 degrés, c'est un seuil qui n'avait jamais atteint auparavant. La température ressentie, elle en plus, s'élève à plus de 45 degrés, puisqu'on parle de région où il fait très humide. Ce dimanche 28 avril, le ministère de l'Éducation philippin avait décrété, au vu des dernières prévisions d'indices de chaleur et l'annonce d'une grève nationale dans les transports, la suspension de tous les cours en présentiel dans les écoles pendant 2 jours. Ça concerne 47 000 établissements où les élèves seront donc invités à rester chez eux. Au Bangladesh aussi, les écoles ont été fermées plusieurs jours à cause de la chaleur. Une jeune mère qui est d'ailleurs citée dans cet article du Nouvel Obs témoigne que la chaleur est trop forte. Sa fille souffre d'éruptions cutanées à cause de la transpiration. En Birmanie, à Chauk, dans le centre-ouest du pays, les thermomètres ont atteint 45,9 degrés ce 24 avril. Ce pays, qui est déjà en proie en plus à un conflit civil extrêmement violent, souffre d'un réseau électrique au bord du breakdown, ce qui empêche une large partie de la population de se rafraîchir, notamment en utilisant des climatiseurs, ce qui n'est pas une solution évidemment idéale, mais quand on en est à 2 doigts de crever de chaud, on fait ce qu'il faut. Il fait chaud à en mourir, ce sont d'ailleurs les mots d'une femme de 39 ans interviewée. Je prie, dit-elle, pour que la pluie tombe bientôt. Des températures tout aussi infernales sont encore attendues dans la région, hein, Vietnam, Thaïlande ou au Cambodge. Le thermomètre est censé dépasser les 40 degrés dans les prochains jours. Et je rappelle que l'humidité de cette région vient ajouter énormément au danger causé par cette température, puisqu'au-delà d'un certain ratio entre la température et l'humidité, et bien, le corps n'arrive plus du tout à s'oxygéner et on peut donc mourir tout simplement de chaud.
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein ?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Je vais demander un petit café, c'est pour ça.
Bon, vous l'aurez remarqué, de notre côté, c'est pas trop ambiance tropicale en ce moment. Enfin, on a de la pluie quand même. Bon, avec des caouets et des bottes, il y aura quand même certainement moyen pour vous de sortir de la maison et de trouver demain une manifestation où aller battre le pavé, puisque demain, c'est le 1er mai, journée internationale des droits des travailleurs. La radio sera donc fermée, d'ailleurs, pour l'occasion. Du côté de Montpellier, le syndicat CGT Héro annonce un rassemblement dès 10h30, place Albert 1er, pour une bonne partie de la journée ensuite de manifestation, le tout sur fond de désaccord sur la réforme des retraites. L'intersyndicale espère et attend donc un raz-de-marée sur Montpellier, alors tous à vos planches de surf. Et on en profite pour terminer avec un petit historique de cette journée du 1er mai, que certains appellent la fête du travail. Eh bien, ce n'était pas vraiment l'objectif premier de cette fête. Hein. C'est historiquement une journée de revendication salariale et syndicale. La date du 1er mai faisant référence à la date anniversaire en 1886 de l'appel de syndicats ouvriers américains pour revendiquer la journée de 8 heures. Ce qu'on appelle donc aux États-Unis Moving Day, ce 1er mai correspond à la nouvelle année comptable pour les entreprises américaines. Et c'est donc la fin des contrats de travail des ouvriers normalement. Et c'était la date à laquelle certains de ces ouvriers américains devaient déménager pour ensuite trouver un emploi ailleurs. Ainsi, donc, dès le 1er mai 1886, plus de 300 000 travailleurs ont manifesté pacifiquement à travers tout le pays en répondant à l'appel de leur syndicat. Mais suite à une autre manifestation le 3 mai, donc toujours en 1886, qui s'est soldée, elle, par la mort de grévistes, c'était dans la société McCormick Haverster à Chicago, une marche de protestation a été organisée le 4 mai. Et au cours de cette manifestation du 4 mai, une bombe a explosé, suivie d'affrontements qui ont fait de nombreuses victimes parmi les forces de police. Plusieurs syndicalistes militants anarchistes ont aussi été arrêtés. Et au cours de leur procès, 5 syndicalistes ont été condamnés à mort. Voilà donc un début mai très très chaud en 1886 du côté de Chicago aux États-Unis, qui marque un peu la première référence historique à cette journée du 1er mai. Et si on revient en France, à l'occasion du centenaire de la Révolution française, donc 3 ans plus tard en 1889, au cours de la 2e internationale socialiste à Paris, et le tout sous l'impulsion de Jules Guesde, eh bien, a été décidé justement de faire de cette date du 1er mai une journée de manifestation. C'est la première qui s'est tenue en 1890, donc le 1er mai 1890, le premier en France. Et en 1891, donc la suite, la deuxième seulement édition, eh bien là aussi la manifestation tourne au drame avec la fusillade de Fourmies. On est dans le nord. Fourmies, je ne sais pas comment on prononce, dans le nord de la France en tout cas, donc avec des mineurs et une dizaine de manifestants tués par les forces de l'ordre. Plus tard, en avril 1919, après le vote par le Parlement de la fameuse journée de travail de 8 heures, eh bien, la journée du 1er mai devient une journée chômée. En 1941, sous le régime de Vichy, est instauré le jour férié du 1er mai, mais là, vous noterez que c'est là qu'on intitule ça la fête du travail et de la concorde sociale, en référence à la fameuse devise du régime de Vichy, travail, famille, patrie. Voilà, vous ferez donc attention quand vous utilisez le mot journée du travail, le 1er mai, puisque ce sont les mots de Pétain. Cette journée a ensuite disparu d'ailleurs à la Libération, mais a été réintroduite en 1946, puis avec une autre loi en 1947, et instituée finalement et définitivement jour férié, chômé et payé. Ça, c'est en 1948. Voilà, journée internationale, donc des droits des travailleurs et des travailleuses, on pourrait rajouter. Eh bien, écoutez, c'est là-dessus que termine ces nouvelles du monde. On se termine aussi en musique avec un petit rappel par le groupe René Binamé, des fameux chanteurs belges, où l'on apprend que nous avons tout à gagner. Et puis, je vous laisse méditer ces paroles là-dessus. Et rendez-vous jeudi pour d'autres nouvelles du monde.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.